السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں.
J'ai récité les trois premiers versets de la sourate Al-A'la. En ne pas comptant la basmala ou le verset où il y a Bismillahirrahmanirrahim, on récite habituellement cette sourate dans la première rakat pour la prière de Juma et pour les prières de l'Aïd. Selon les ahadiths, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait dans la première rakat de la prière de Juma et de l'Aïd, la sourate Al-A'la, et il récitait ensuite la sourate Al-Ghashiyah dans la deuxième rakat. C'est en suivant cette sunna que l'on récite ces sourates dans ses prières. Et il est dit aussi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait cette sourate, c'est-à-dire la sourate Al-A'la, dans la première rakat de la prière de Witr. Il récitait dans la deuxième rakat la sourate Al-Kafiroun. Et selon certains hadiths, il est dit que dans la troisième rakat, il récitait la sourate Al-Ikhlas, ou les trois derniers chapitres du Saint-Coran. Aujourd'hui, je vais parler à propos de ces versets de la sourate Al-A'la. Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud, radhiyallahu anhu, a commenté en détail sur ces versets dans son commentaire du Saint-Coran, le Tafsir Kabir. Les commentaires du deuxième calife sont un trésor de connaissances et les membres de la communauté doivent en profiter. Ces commentaires ne couvrent pas le Saint-Coran en entier, mais il y a 10 volumes de ces commentaires qui concernent plusieurs chapitres du Saint-Coran. Il est dit donc dans ce verset, Sabihisma Rabbikal A'la, glorifie le nom de ton Seigneur le plus haut. Ton Seigneur qui, en raison de sa Raboubiya, est le plus exalté. Glorifie-le. Cela signifie aussi que proclame haut et fort le nom de ton Seigneur dans le monde. On a confié ici deux responsabilités à l'homme, aux croyants. On a confié ces responsabilités à ceux qui ont la certitude que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète et que sa charia est parfaite et que Dieu l'a envoyé comme un exemple parfait pour nous et que nous devons suivre sa voie. Toute personne qui affirme être un suivant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit suivre son exemple. Allah déclare aussi « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Vous avez dans le prophète de Dieu un exemple parfait, un exemple que vous devez suivre. Comment le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, glorifiait-il Dieu? Du matin jusqu'au soir, il se souvenait de Dieu. Et il priait ainsi, « Ô mon Seigneur, fasse que je sois parmi ceux qui se souviennent de toi, fasse que je sois parmi ceux qui sont reconnaissants envers toi. » Dans ses prosternations et dans ses génuflexions, il glorifiait Dieu. Et cette glorification, ses louanges, ses supplications avaient un aspect extraordinaire. En se courbant, il récitait « Subhana Rabbi al-Azim, Saint est mon Maître, le Tout-Puissant ». Et en se mettant debout, il récitait « Sami Allahu liman hamida » et il attirait ainsi notre attention vers les louanges de Dieu. On avait demandé à Hadrat Aïcha radhiyallahu anha de décrire le saint prophète, paix soit sur lui, dans ses prières, et elle a répondu que l'on ne peut décrire la beauté et les longueurs des mouvements du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au cours de la prière. À ce sujet, Hadrat Abdulrahman bin Auf rapporte qu'une fois, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est venu dans la mosquée. Et il s'est tourné dans la direction de la Qibla et il a fait une longue prosternation. Abdurrahman déclare que sa prosternation était si longue que j'étais soucieux. Je croyais même que Dieu avait déjà pris son âme au cours de cette prosternation. Abdurrahman déclare que je me suis rapproché de lui et il s'est levé de sa prosternation. Le saint prophète a demandé qui est-ce. Le rapporteur déclare que je suis Abdurrahman. Et Abdurrahman de déclarer que j'ai dit « Ô prophète d'Allah, votre prosternation était si longue que je croyais que Dieu avait pris votre âme. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que l'ange Gabriel est venu à moi et m'a donné cette bonne nouvelle que Dieu a déclarée à mon sujet, qu'il fera pleuvoir ses bénédictions sur celui qui enverra des salutations sur moi et qu'il fera pleuvoir la paix sur celui qui envoie la paix sur moi. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ajouter que c'est pour cette raison que j'ai fait cette prosternation en reconnaissance à Dieu. C'est pour cette raison que je rendais gloire à Dieu. C'est pour cette raison que je louais Dieu. Il n'a pas exprimé sa reconnaissance envers Dieu uniquement pour cette grande faveur que Dieu lui avait conférée, mais il remerciait Dieu pour les moindres faveurs que Dieu lui accordait. Même au cours de ces simples occasions, il exprimait sa reconnaissance envers Dieu. Dans certains cas, il n'avait même pas de quoi à manger. Dans certains cas, il devait se contenter du pain sec. Mais même dans ces situations, il remerciait Dieu. Et il était tout le temps en train de rendre gloire à Dieu. Je dois aussi ajouter que selon les hadiths, il est dit que avant la révélation de ce verset « Sabbih isma rabbika al-a'la », le saint prophète Mohammed lui avait demandé à ses compagnons de réciter ces paroles dans leur prosternation. « Allahumma laka sajadtu ». Mais après la révélation de ce verset, il leur a enseigné la prière « Subhana rabbi al-a'la » à réciter dans la prosternation. Et après la révélation du verset « Fasabbih bismi rabbika al-azim », il leur a demandé de réciter « Subhana rabbi al-azim » au cours de la génuflexion. Il nous a enseigné comment glorifier Dieu, comment se souvenir de Dieu et comment rendre gloire à Dieu. Dans un hadith, Hadrat Juwayriya rapporte que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est passé à côté de moi pour la prière du matin. J'étais assis sur mon tapis de prière. Et lorsque le saint prophète est retourné, quand le soleil s'est levé, j'étais toujours assise sur mon tapis de prière. J'étais en train de rendre gloire à Dieu. Et il m'a demandé « Que fais-tu ici depuis tôt le matin ?» J'ai dit que j'étais en train de rendre gloire à Dieu. J'étais en train de me souvenir de Dieu. Le saint prophète a déclaré que depuis que je suis parti, j'ai répété à 3 reprises 4 paroles. Et si on pèse mes paroles et les tiennes, l'on constatera que mes paroles sont plus lourdes que les tiennes. Ces paroles de prière sont Subhanallahi adada khalqihi, Subhanallahi ridwa nafsihi, Subhanallahi zinata arshihi, Subhanallahi midada kalimatihi. Allah est aussi saint que le nombre de sa création. Allah est aussi saint et pur que cela lui plaise. Allah est aussi pur et saint que son trône est lourd. Et Allah est aussi saint et pur que l'encre de ses paroles. D'une part, l'on comprend le pouvoir sanctifiant qu'avait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ses épouses et le fait qu'elles faisaient des efforts pour se souvenir de Dieu et pour le glorifier. L'on comprend aussi à quel point et avec quelle diligence elles se souvenaient de Dieu. D'autre part, l'on comprend aussi avec quelle profondeur le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait glorifié Dieu pour un long moment, pour environ une heure à une heure et demie. Il a répété trois fois ces quatre paroles. L'on comprend grâce à cela son statut et l'on comprend aussi que les glorifications de Dieu doivent se baser sur des paroles complètes et on doit méditer sur les paroles de Dieu. On doit aussi se souvenir de Dieu, le glorifier tout en ayant en tête sa grandeur et sa puissance. Après la conquête de la Mecque, nous voyons une autre expression de sa reconnaissance envers Dieu. Il était assis sur sa chamelle et il s'était prosterné. Il s'était prosterné et récité cette prière: Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saint es-tu, ô mon Seigneur, saint es-tu avec tes louanges, ô mon Seigneur, pardonne-moi. Il a fait cette prière alors qu'Allah lui avait déjà conféré un grand statut, après que Dieu lui a révélé que si les croyants aiment Dieu, s'ils veulent que Dieu les aime en retour, ils vont devoir le suivre, lui, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais même après avoir eu ce grand statut, il implorait le pardon de Dieu tout en glorifiant Dieu et en exprimant sa reconnaissance envers lui. Voilà l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quant à la méthode à utiliser pour glorifier Dieu afin que l'on puisse exprimer la grandeur réelle de Dieu. Il a aussi exprimé sa reconnaissance envers Dieu et a glorifié Dieu pour les salutations que sa Oumma va envoyer sur lui. Il a exprimé sa gratitude envers Dieu car celui-ci a fait du Daroud, c'est-à-dire des salutations, un moyen pour le pardon de sa Oumma. Et il a aussi glorifié Dieu parce que celui-ci leur a offert différents moyens pour se faire pardonner. Et en raison du grand statut que Dieu lui a conféré, et lorsque Dieu lui a accordé ce grand succès, qui est la conquête de la Mecque, il a glorifié, il a loué Dieu d'une manière incomparable. On voit aussi une humilité tout aussi incomparable en sa personne. Il a enseigné comment glorifier Dieu et a ainsi attiré l'attention de la Oumma vers le fait que leur salut et leur succès, leur progrès et leur victoire ne dépendent pas des moyens matériels. Mais tous ces succès, tous ces progrès dépendent du louange de Dieu et de sa glorification. Certes, à différents niveaux, vous pouvez avoir d'autres seigneurs, des seigneurs dont vous dépendez. À titre d'exemple, un enfant dépend de ses parents, car ceux-ci s'occupent de lui. De ce fait, ils sont ses robes quand il est petit. Ensuite, quand cet enfant grandit, il dépend aussi de ses supérieurs, il dépend aussi des souverains, il dépend aussi des dirigeants de l'État. Toutes ces personnes participent dans une certaine mesure à son épanouissement. Mais la raboubia de toutes ces personnes comporte de nombreuses lacunes. Cette raboubia n'est pas parfaite. La mère est celle qui fait plus d'efforts pour s'occuper de son enfant, mais elle n'arrive pas à atteindre la perfection même dans ce domaine. Dans certains cas, elle donne trop à manger à son enfant et celui-ci tombe malade. Dans d'autres cas, elle néglige sa nourriture et celui-ci tombe malade. Et si elle consacre son attention à autre chose, elle peut négliger son enfant. Il y a des lacunes ici et là. Et il en est de même dans le monde professionnel. Les officiers supérieurs ou les souverains commettent des erreurs. Ils sont tous faibles. Mais en sus de cela, ces personnes veulent qu'on fasse leurs éloges. Elles veulent des éloges qu'elles ne pourront jamais mériter. Ces personnes sont adulées, on leur fait mille flatteries. Des flatteries mensongères et qui se transforment en hypocrisie. Rabbi Allah est le Seigneur qui est exemple de lacunes dont les louanges sont vraies. Celui qui a manifesté sa Rahmania et qui s'occupe de tous, et c'est lui qui a manifesté aussi sa Rahimia et exauce ainsi les prières de ses serviteurs et leur accorde mille faveurs. Il possède d'innombrables attributs, des attributs à travers lesquels il accorde des grâces à ses serviteurs. Le croyant doit agir selon le commandement Sabih Isma Rabbik al-A'la et il doit tout le temps louer ce Dieu parfait et essayer de profiter de ses attributs qui comportent le bien. Et doit essayer de se prémunir de son châtiment. Tout bien est accompagné de mal, et on doit prier pour que Dieu nous protège de tout mal. Et Allah accorde certainement sa protection à celui qui le glorifie sincèrement. Le Saint-Coran a lié la glorification avec la sola ou la prière, c'est-à-dire que la sola est une forme de glorification. Il faut donc accomplir la sola régulièrement. Et c'est ainsi que l'on va comprendre la portée réelle de ce verset « Sabih Isma Rabbik al-A'la ». Il y a un autre sens à ce verset, et cela signifie « proclamer la grandeur de son Seigneur au monde ». Et nous voyons en la personne du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple le plus sublime à ce sujet. Il a accompli son devoir d'inviter les gens vers Dieu. Allah lui a dit que Da'in ilallahi bi'iznihi invite les gens vers Dieu avec sa permission.
Et
Ensuite, il est dit, « Ya ayyuhal rasul, balligh ma unzila ilaykam ya rabbik, ô prophète, transmis aux autres ce que Dieu t'a transmis. » Et il a accompli son devoir à ce sujet. Et ainsi, il a fait davantage pour proclamer la grandeur de Dieu au monde. Avec aménité, avec sagesse, avec bienveillance, tout en étant patient, dans toute situation, il s'est acquitté de son devoir de prédication. Dans chaque situation, il a glorifié Dieu et il s'est acquitté de son devoir. Il a fait face à des difficultés, mais il a toujours rendu grâce à Dieu, a glorifié Dieu et a toujours progressé. Aucune crainte ne pouvait l'empêcher d'accomplir son devoir. Et il a insufflé le même esprit en ses suivants. Et ces derniers aussi ont fait des sacrifices pour proclamer la grandeur de Dieu. Dans la même sourate, Allah déclare « Alladhi khalaqa fasawwa » C'est lui qui a créé et a parfait. Cela signifie que Dieu a créé l'homme tout en lui conférant les aptitudes dont il aura besoin. Et Dieu a mis en lui l'aptitude à faire des progrès. Un enfant qui naît normalement possède toutes ces aptitudes qui lui seront nécessaires. Et lorsqu'il grandit, il affine ses aptitudes au sein de la société. Il arrive à affiner ses aptitudes. Il y a certes ceux qui peuvent être faibles tant au niveau physique ou mental, mais ce n'est pas quelque chose de général. Dieu a créé l'homme et lui a conféré le titre de meilleur de la création. Et si les hommes utilisent à bon escient les aptitudes intellectuelles que Dieu leur a accordées, ils pourront apporter sous leur contrôle toute la création. C'est-à-dire, l'homme pourra être le reflet des attributs divins. Et nous voyons l'exemple parfait en la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est à lui que Dieu a accordé son enseignement parfait, un enseignement qui est en accord à la nature de l'homme tel qu'il a été créé par Dieu. Un enseignement qui est en accord à l'évolution de l'homme jusqu'à la fin des temps. Un enseignement qui est conforme à ses capacités intellectuelles et physiques. La sévérité et l'indulgence sont deux facettes de la nature de l'homme, et ces deux qualités sont nécessaires. Dans certains cas, il doit faire preuve de sévérité, et dans d'autres cas, il doit faire preuve d'indulgence. Et le Saint-Coran a déclaré que l'on doit faire preuve de sévérité ou d'indulgence selon les exigences de la situation. Et c'est là que l'homme entrera dans la catégorie qui a été mentionnée dans le verset précédent, c'est-à-dire de la catégorie « Sawwa » quand chacune de ses actions sera conforme aux exigences de la situation. S'il désire la réforme, par exemple, il doit voir s'il est plus opportun de pardonner ou de châtier. Si l'on se contente de pardonner à tout bout de champ, eh bien, les malfaiteurs vont mettre à mal la paix de la société. Une personne intelligente et qui se tourne vers Dieu fait toujours preuve de discernement. C'est pour cette raison que Dieu a déclaré que j'ai créé l'homme parfait. Je l'ai créé exemple de faiblesse. Les actions d'une personne perspicace sont en accord aux exigences de la situation. Khalaqa fasawa signifie que lorsqu'il y a des lacunes, Allah remédie à la situation. Il y a des maladies, mais il a aussi mis en place les remèdes, et c'est lui qui montre où sont ces remèdes. Il y a certains athées qui pensent que c'est là le fruit de leurs efforts, mais c'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir partout. Et cela indique tout le temps la raboubia de Dieu. Dieu a accordé à l'homme des aptitudes intellectuelles grâce auxquelles il invente de nouvelles choses. Il y a par exemple la médecine. Et tout le temps, on fait de nouvelles découvertes quant à la médecine. Il y avait de nombreuses maladies qui étaient auparavant inconnues ou qui étaient auparavant inexistantes. Et quand l'homme a progressé intellectuellement, Dieu lui a accordé des aptitudes de... et ainsi il a pu s'offrir une meilleure qualité de vie. Il y a par exemple le cœur. Auparavant, il n'y avait pas de maladie de cœur, soit parce qu'on ignorait cela, ou soit parce que la vie de l'homme était si active et il faisait tant d'efforts physiques et il avait une bonne alimentation et il n'était pas ainsi frappé de maladies de cœur. Mais petit à petit, lorsque la vie de l'homme a changé, on constate qu'il y a aussi de nouvelles maladies. Et la maladie du cœur fait partie de ces nouvelles maladies, on peut dire. Et aujourd'hui, on arrive à guérir les gens de ces maladies grâce aux opérations à cœur ouvert. Et il y a aussi l'angioplastie. Et on est en train maintenant de faire des recherches sur les cellules souches. Dieu est en train d'affiner les connaissances et les aptitudes de l'homme selon ses besoins. Telle est la raboubia de Dieu, un Seigneur que l'homme doit louer. S'il y a des lacunes, il montre comment remédier à la situation. Un mouahid, quelqu'un qui adore Allah, l'unique, attribue toute nouvelle recherche à Dieu. Si Dieu nous a guidés concernant les maladies physiques, il nous a certainement guidés concernant les maladies spirituelles. À toute époque, les prophètes de Dieu sont venus pour guérir les maladies spirituelles et ils ont guéri les maladies de l'époque. Lorsque la vie de l'homme a réuni en soi toutes les maladies spirituelles, lorsqu'il y a eu de nouvelles maladies, et lorsque toutes ces maladies spirituelles se sont réunies en la personne de l'homme, c'est là que Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed, paix sur lui, et il a envoyé le saint Coran comme le livre parfait, le saint Coran qui est une guérison. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a servi d'exemple grâce à son pouvoir sanctifiant. Il a montré cela à la lumière des enseignements qu'il a apportés et il a transformé des sauvages en des hommes de Dieu. Mais après une période, lorsque les musulmans ont oublié ces enseignements, lorsqu'ils n'ont pu pratiquer ces enseignements, Dieu a envoyé son Messie selon ses promesses et il a fait sortir des perles de connaissance du Saint-Coran. Et il nous a guéris de nos maux spirituels. Et il nous a guéris de nos maux spirituels en nous présentant ces remèdes. Les médecins arrivent à trouver des remèdes après une longue période de recherche et après beaucoup d'efforts. Mais 1400 ans de cela, Dieu a révélé le Saint-Coran comme le remède parfait pour toutes ces maladies spirituelles. Et à toute époque, toute personne pieuse a compris quels sont ces remèdes. Et en fin de compte, le Messie promis nous a montré ces remèdes pour ces nouvelles maladies spirituelles en tirant ces enseignements du Saint-Coran. Car c'est à lui qu'Allah a conféré cette connaissance qui dépend du Saint-Coran et qui concerne les maladies spirituelles contemporaines. Quand il a lavé le Saint-Coran de toute accusation de versets abrogés, c'est là que l'on a découvert le remède véritable. Et cette tâche a été accomplie par le Messie promis à l'Islam. Et il a accordé aux véritables croyants, ceux qui méditent sur le Saint-Coran, ces remèdes. Il leur a accordé cela à la lumière de ses commentaires, de ses enseignements, de ses préceptes qui sont puisés du Saint-Coran. La maladie de ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de réformateurs ou de messie promis ne fait que s'accroître. Ces maladies vont s'accroître parce qu'ils ne l'ont pas accepté, parce qu'ils ne sont pas prêts d'accepter le fait que l'on doit accepter l'imam qui a été envoyé par Dieu. Cette animosité qui est en train d'augmenter, ces attaques suicides, ces meurtres et ces attaques terroristes sont-elles en accord aux préceptes de l'islam? Est-ce que l'islam enseigne que l'on doit tuer ou commettre des exactions au nom de Dieu ou au nom de la religion? Certainement non. Dans leur incompréhension, ils ont rejeté cet enseignement, un enseignement qui a été présenté par le Messie promis, alayhi salam. Les musulmans sont en train d'agir ainsi afin de plaire à leur Seigneur temporaire. Alors que le Messie promis les invite vers Dieu l'unique. Et il les invite à pratiquer l'enseignement qui a été révélé au saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignement véritable de l'islam. D'une part, certains déclarent qu'on a besoin d'un réformateur, qu'on a besoin du califat au sein de l'islam. Mais d'autre part, ils rejettent celui qui a été envoyé comme médecin par Dieu, celui qui est venu remédier à cette situation. Ensuite, dans le même chapitre, Allah a déclaré « Wallazi qaddara fahada » celui qui a donné aux éléments leur composition et les a guidés. Ce verset est lié au verset précédent et le deuxième calife a déclaré que « qaddara fahada » a deux sens. Il est dit que l'homme a la capacité de progresser. Il possède toutes ses aptitudes. Dieu lui a accordé les moyens pour progresser et il a aussi créé, en accord à ses moyens, ses enseignements. Il l'a créé en accord aux enseignements, ensuite il a envoyé ses enseignements, il lui a envoyé une direction correspondante à ses aptitudes. Et quand l'homme s'est détourné de la bonne direction, Dieu lui a guidé dans cette bonne direction. Cette direction a été envoyée dans toute sa perfection au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que l'homme puisse comprendre ses devoirs envers Dieu, afin qu'il puisse comprendre aussi ses responsabilités et afin qu'il puisse s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. Quand cette direction est venue, le croyant va devoir la suivre. Et s'il ne comprend pas cette direction, il doit se tourner vers celui qui a été envoyé par Dieu, vers cet imam, vers ce médecin. C'est en cela que réside le salut de l'humanité. Cela a été évoqué dans le premier verset où il est dit de rendre gloire à Dieu et de se tourner vers lui et d'accepter celui qui a été envoyé par lui. Et si l'on ne comprend pas cela, on doit en toute sincérité implorer l'aide de Dieu pour qu'il nous guide dans la bonne direction, afin que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers lui, afin que nous puissions aussi transmettre aux autres le message de Dieu. C'est là un devoir qui nous incombe et c'est là le signe du vrai croyant, celui qui est exempt de toute faute. Qu'Allah nous donne la possibilité de le glorifier en toute sincérité, de l'adorer et de nous lier avec celui qui a été envoyé par lui. Et que nous puissions aussi transmettre son message aux autres. Je vous demande encore une fois de prier pour les Ahmadis de l'Égypte. Depuis quelque temps, il y a une campagne contre la Jamaat dans ce pays. Et 12 ou 13 Ahmadis ont été incarcérés. On ne sait pas quel sera leur avenir, donc priez pour eux pour qu'ils soient libérés rapidement. Les autres pensent qu'en les emprisonnant, ils vont se détourner de leur foi. Et par la grâce d'Allah, tout Ahmadi est ferme dans sa foi là où il se trouve. Et ces derniers vont prouver leur fermeté dans leur foi et ils vont le faire à l'avenir, Inch'Allah. Et ils sont en train de me réconforter en disant qu'ils ne reculeront point dans leur foi. Quelques jours auparavant, ils avaient arrêté une femme et l'ont ensuite libérée. Priez aussi pour les Ahmadis du Pakistan, car la situation est très difficile là-bas aussi. Qu'Allah donne la possibilité au monde d'accepter le message du Messie promis, afin que l'on puisse se débarrasser de tous ces maux. Allah a mis en place les moyens, comme je l'ai dit. Maintenant, c'est à l'homme de profiter de ces moyens. Et si l'homme n'en profite pas, Allah sait le mieux comment il va traiter les hommes. Qu'Allah protège tout un chacun de toute calamité, de tout malheur. Et qu'Allah fasse que nous soyons tous des serviteurs sincères envers lui. Amen.